Bon, bonsoir à tout le monde. Contrairement justement à notre habitude du premier mardi du mois, conférence débat, où il y a normalement un plateau d'intervenants à qui je commence par donner la parole, et puis bien après ça ouvre le débat, puisque la finalité de ces rencontres est bien de pouvoir échanger, mais dans un débat libre et respectueux. Je vais donc faire une introduction un petit peu longue. Je préciserai en finale que s'il n'y a pas d'intervenant en face de vous, mais l'idée c'est vraiment d'être dans le forum, dans l'échange, il y a des personnes qui ont été invitées, à qui je laisserai la liberté de se présenter ou quand ils le souhaiteront, d'intervenir quand ils le souhaiteront, de manière à vivre ensemble cette soirée. Sans plus attendre, je vais donc commencer par introduire notre échange. En partant du titre qui a pu interroger beaucoup de personnes, « Tout concourt au bien de ceux qui cherchent Dieu. Vraiment ?» Point d'interrogation et point d'exclamation. Pourquoi ce titre ? Eh bien, nous venons de célébrer la fête des saints, il y a quelques jours, qui nous rappelle que par notre baptême, nous sommes tous appelés à la sainteté. Qu'est-ce à dire ? D'abord, ce qu'elle n'est pas. La sainteté ne se confond pas avec la perfection, qui renvoie davantage à l'ordre moral. La sainteté est davantage un itinéraire, un cheminement. En se laissant accompagner par un autre, le Christ, comme les disciples d'Emmaüs dans l'Évangile. Et nous nous rappelons que ce Christ rejoint sur le chemin des hommes qui tournent le dos à Jérusalem, comme on tourne le dos à un idéal. Leur dernière vision est celle de Jésus crucifié, avec son corps supplicié sur la croix, vision qui a brisé leurs rêves, leurs espoirs. Ils ont quitté Jérusalem le cœur lourd de tristesse. Et voilà que cet homme qui fait maintenant route avec eux rallume un feu au plus profond de leur cœur, un feu qui les pousse à rebrousser chemin, à retrouver à Jérusalem les autres disciples et à se préparer avec eux à éprouver toute la puissance de résurrection du Christ, désormais à l'œuvre par l'action du Saint-Esprit. La sainteté est dans ce retournement. Elle est énergie nouvelle reçue d'un autre et elle est acceptation d'être le vase d'argile qui sert de réceptacle au bien le plus précieux au monde, le corps du Christ donné pour le salut du monde, de toute l'humanité. Voilà l'aventure spirituelle à laquelle tout baptisé est appelé, sans autre condition que de se laisser faire et d'apporter sa modeste contribution, la pauvre au bol de lui-même, sa pauvreté transfigurée par la puissance d'amour de Dieu. Dans cette humble démarche, chacun d'entre nous avance avec ce qu'il est, avec tout ce qui compose son identité, sans mettre de côté son corps et sa sexualité. L'Église invite à faire de ce corps et de sa sexualité le lieu concret de l'alliance nouée par Dieu avec l'humanité. Lieu concret, marqué du caractère très individuel et très intime de chacune de nos personnalités. En introduisant, comme je viens de le faire à l'instant, l'identité sexuelle dans les composantes de notre personnalité, après avoir rappelé la perspective générale de l'appel à la sainteté adressé à tout baptisé, vous vous dites peut-être, mais à quoi veut-il en venir? Et c'est vrai que l'argument écrit pour présenter ce forum débat de ce premier mardi de novembre et que vous avez pu lire dans la dernière livraison du bulletin Un petit mot, trois petits pas, eh bien, peut paraître à la relecture et à nous-mêmes d'ailleurs un peu compliqué et confus. Comme si on tourne autour d'une question sans vraiment la poser ou qu'on n'arrive pas à la poser comme on voudrait la poser. Et beaucoup se disent derrière, est-ce que c'est la question de l'homosexualité et de la vie en couple de personnes du même sexe? Et on viendra alors immanquablement au thème d'actualité de la loi présentée demain au Conseil des ministres sur le mariage pour tous. Mais nous savons très bien que ce thème, loin de créer du débat dans une atmosphère sereine et respectueuse, risque de conduire à la polémique stérile, à la défense des positions intransigeantes. On ne voit plus alors la personne dans sa singularité. On ne considère plus alors sa propre responsabilité vis-à-vis de soi-même de mettre toutes les composantes de son identité au service de l'Église et du monde, à la suite du Christ et dans l'attention aux autres. Alors, l'appel à la sainteté nous a paru un bon cadre, plus large, que celui du débat d'actualité, afin de commencer d'abord par nous resituer nous-mêmes, avec tout ce que nous sommes, dans notre désir de fidélité au Christ et de service des autres. Évoquer l'identité sexuelle dans sa diversité, ce n'est donc pas noyer le poisson, c'est considérer que la question ou les questions que l'homosexualité soulève sont aussi des questions qui se posent aux personnes hétérosexuelles. Aucune orientation sexuelle n'est de soi une garantie de fidélité aux valeurs de l'Évangile. Et plus généralement, on peut même noter, en allant sur un certain nombre de recherches sur Internet, que ce questionnement interpelle toutes les traditions religieuses. À preuve, je vous cite une phrase trouvée sur le site Homosexuels musulmans de France. Aujourd'hui en France, nombreux sont ceux qui tentent de concilier tradition, foi religieuse, spiritualité humaine avec ce qui relève du domaine de la vie privée, notre préférence sexuelle, quelle qu'elle soit. Fin de la citation. Il me semble que cette phrase souligne bien le fait que la relation entre pratique religieuse et identité sexuelle interroge toutes les traditions spirituelles. Oser en parler, oser faire état de son identité sexuelle reste cependant un sujet tabou dans la plupart de nos communautés. Le journal La Croix a justement publié aujourd'hui, à l'intérieur d'un dossier sur le débat que le projet de loi suscite, un article intitulé « Catholiques et homosexuels, ils veulent sortir de l'impasse ». Je vous invite à aller le consulter. En voici quelques extraits. Et je cite. Je ne revendique rien, si ce n'est le droit de vivre sans être amputé d'une partie de moi-même, répond Jean-Michel Dunant, 49 ans, quand on lui demande ce qu'il attend de l'Église. Ce catholique, vivant en couple fidèle et stable depuis 20 ans, et animateur en pastoral depuis 1995 dans une école catholique, grâce à la confiance en toute connaissance de cause du chef d'établissement. Jean-Michel Dunant a créé en 2000 la communion Béthany pour permettre à des personnes, là je cite, homosensibles et transgenres, de prier chaque jour en lien avec des monastères et de se rencontrer pour deux retraites annuelles. Et un peu plus loin, l'article précise encore, 40% de ceux et celles qui fréquentent régulièrement un lieu de culte chrétien n'ont révélé à personne leur homosexualité, écrit la sociologue Martine Gross dans l'enquête « Être chrétien et homosexuel en France ». Les catholiques ayant intériorisé le discours de l'Église vivent souvent leur orientation homosexuelle dans la honte et la culpabilité, poursuit Claude Besson. Bien souvent, le silence qui entoure les personnes homosexuelles concerne aussi leurs parents et leur fratrie. Dans ma paroisse, quand on me demande des nouvelles de mes 5 enfants, je ne parle jamais de ma dernière fille qui vit avec une compagne, raconte Marthe. En milieu catho, on tait généralement ces choses-là, poursuit-elle. De fait, nombreuses sont les personnes qui, à partir du moment où leur homosexualité est connue, souffrent d'être mal perçues dans leur paroisse ou leur mouvement d'église. Fin de, des extraits de cet article de La Croix d'aujourd'hui. Or, en contrepoint à ce qu'on vient d'entendre, quand on va regarder les discours officiels de l'Église hiérarchique, pour prendre un grand terme, on n'entend quand même pas la même chose. Je vous cite simplement une phrase de la lettre aux évêques sur la pastorale des personnes homosexuelles qui leur a été adressée par la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1986, j'allais dire, pas hier. Et cette phrase dit ceci, « Il faut fermement déplorer que les personnes homosexuelles aient été et soient encore l'objet d'expressions malveillantes et de gestes violents. Pareille réaction mérite la condamnation des pasteurs de l'Église. » En même temps, il ne suffit pas d'aller rechercher les textes officiels et nous savons bien que ces déclarations officielles ne suffisent pas à modifier les comportements, à les évangéliser. Aussi, ainsi, et toujours dans ce sens-là, lorsque nous avons lancé notre thème de rencontre pour ce premier mardi, et c'est pour ça que je me fais appuyer par Françoise à mes côtés, parce qu'on a recherché un petit peu ensemble après, une fois que le groupe avait pris cette perspective de soirée, ben, nous avons essayé de contacter des personnes qui nous ont dit, j'allais dire sous le manteau, que dans leur paroisse ou leur mouvement, certaines personnes sont notoirement entre guillemets, connues pour être homosexuelles. Mais évidemment, aucune d'entre elles ne viendra en faire état publiquement. Et c'est pourquoi nous avons souhaité prendre l'angle plus large et plus général de l'identité sexuelle, quelle qu'elle soit, comme une des composantes de notre personnalité avec laquelle nous avons à répondre à l'appel à la sainteté. Une réponse qui pourrait être complète suppose de n'oblitérer aucune composante de notre personnalité, d'autant plus que, en ce qui concerne notre identité sexuelle, nous savons que toute tentative de la neutraliser au sens de faire comme si elle n'existait pas n'est pas un gage de réussite, mais tout le contraire. Aussi, quelle que soit notre identité sexuelle, elle peut apparaître comme un obstacle pour répondre à l'appel à la sainteté. Et je vous cite encore une phrase du site Homosexuels musulmans de France. Pourtant, l'homosexualité, la sexualité en général, n'est pas un choix, mais bien une réalité que l'on apprend à découvrir dès l'adolescence. Évoquer l'adolescence comme période de découverte et de confrontation avec son identité sexuelle, c'est tout de suite introduire la dimension de souffrance dans bien des cas. Souffrance peut-être de ne pas être comme les autres. Souffrance aussi des parents et des réactions familiales, jusqu'au rejet parfois. Or, s'il est clair que, et indiscutable, que l'homophobie n'est pas acceptable et que l'Église ne lui donne pas droit de citer dans ses communautés, on peut quand même se demander, l'Église offre-t-elle pour autant toutes les conditions d'accueil et d'écoute pour que tout un chacun se sente accompagné spirituellement, quelle que soit son identité sexuelle, mais plus particulièrement lorsque cette identité sexuelle est source de souffrance, de violence et de drame. Souffrance, violence et drame, rappelons-le, qui ne sont pas l'apanage des homosexuels. Et nous savons très bien que violence, souffrance et drame ne sont pas absents, dans un certain nombre de cas, de la vie de couples hétérosexuels, mariés et tout ce que vous voulez. Notre échange d'aujourd'hui vise donc à favoriser cet accueil et cette écoute. Et vous avez vu que dans l'argument, nous avions repris l'expression « ami dans le Seigneur », qui est de notre tradition ignatienne. Entre amis dans le Seigneur qui éprouvent pour eux-mêmes l'importance d'un accompagnement spirituel, ecclésial et communautaire, qui nous resitue tous sur le chemin d'Emmaüs, accompagnés par la présence consolante et encourageante du Christ, qui, dans la puissance de sa résurrection, s'emploie à révéler à chacun sa pleine identité aux yeux de Dieu, afin de le mettre au service des autres. Notre vie chrétienne est à hauteur de ce mystère. À nous de faire en sorte de ne pas nous maintenir un degré plus bas et surtout à ne pas y maintenir d'autres personnes appelées elles aussi à la sainteté. Alors pour cet échange, et c'est le sens de cette longue introduction, de marquer que cet échange est empreint d'humilité et de gravité, comme je le disais tout à l'heure, nous avons choisi d'inviter quelques personnes présentes au milieu de nous. Ce ne sont donc pas des intervenants comme nous avons l'habitude d'en avoir. Ces personnes ne sont pas là pour faire des exposés sur lesquels réagir. Elles sont invitées à initier nos échanges et peut-être à les ouvrir sur telle ou telle dimension que nous risquerions d'oublier. De par leurs engagements et les réseaux relationnels auxquels elles participent, elles peuvent se faire l'écho auprès de nous de situations personnelles, tant heureuses que malheureuses, qui font apparaître les forces et les faiblesses de nos communautés chrétiennes pour marcher à l'unisson sur le chemin d'Emmaüs. Voilà la manière dont nous avons souhaité poser le cadre de cet échange et que donc je ne m'autorise pas à présenter les invités, comme je l'ai dit tout à l'heure, je leur laisse la liberté d'intervenir quand ils le souhaitent, de se présenter comme ils le veulent. N'attendons pas forcément que l'un ou l'autre prenne la parole. Vous voyez dans quel cadre nous avons souhaité introduire cet échange. Eh bien, dès à présent, ceux qui le souhaitent, nous pouvons engager cet échange davantage dans cette humble marche que je viens de décrire. Tout concourt au bien de ceux qui cherchent Dieu. Vraiment, en sommes-nous convaincus ?
Aristide Payette, donc le président de la Fédération des associations familiales catholiques et aussi président de l'UDAF. L'UDAF qui comprend bien sûr tous les mouvements familiaux. Alors personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette introduction. Parce que vous avez, c'est très important, je pense, de rappeler que l'Église tient à rejeter tous les discours empreints d'homophobie. Nous, chrétiens, nous, catholiques, nous devons vivre en permanence ce commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc l'intimité d'une personne, son orientation sexuelle, ce sont donc des éléments qui ne concernent que la personne elle-même. C'est vrai que c'est peut-être dommage, mais là, c'est sans porter de jugement de valeur, que dans notre Église, vous avez des personnes à orientation homosexuelle vivent cette orientation sexuelle dans la honte et la culpabilité, comme ça a été indiqué. Elles font partie de l'Église et doivent être regardées comme des frères et des sœurs dans le Christ. Quand on parle donc du projet de loi sur le mariage pour tous, c'est vrai que on a tendance à mettre en avant les couples homosexuels. Mais en tout cas, je fais partie du conseil d'administration de l'UNAF et on a eu donc un premier débat à l'intérieur de ce conseil d'administration et tous les mouvements, et ils sont nombreux, il y en a 23, tous les mouvements qui sont intervenus en préambule avant le débat ont bien mentionné qu'il ne s'agit pas vraiment de parler contre les personnes homosexuelles. Et c'est pourquoi il n'est pas question de parler donc de mariage civil pour les couples homosexuels, mais pour les couples de même sexe. Donc je pense que tous les mouvements souhaitent rejeter vraiment l'homophobie. Il n'est pas question de parler d'homophobie. C'est le respect de toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Voilà.
Juste petite précision, quand tu dis les 23 mouvements, c'est les 23 mouvements qui composent l'UDAF.
Ils composent l'UNAF.
Qui sont adhérents à l'UDAF.
Voilà.
Tu peux en citer quelques-uns ?
Oui, mais vous avez donc bien entendu le mouvement des associations familiales catholiques, mais vous avez Famille de France, vous avez Famille Rurale, vous avez le comité, le CNAFAL, le National des associations familiales laïques.
Je pourrais en citer non, d'autres. C'est intéressant que tu cites la FAL, c'est-à-dire ça balaye vraiment tout l'horizon. Si
c'est au départ. Après, il y a eu donc des interventions très variables, mais dès le départ, chacun tenait à dire qu'il ne s'agit pas, dans ce débat sur ce projet de loi, il ne s'agit pas du tout d'aller contre les personnes homosexuelles. L'orientation, là, je vous dis la phrase, c'est dans ce projet de loi, l'orientation sexuelle des personnes n'est pas l'objet du débat. L'orientation sexuelle n'est pas l'objet du débat. Tout le monde respecte l'orientation sexuelle de chacun. On n'a pas à mettre en avant l'orientation sexuelle d'une personne. On tient à travailler sur ce projet par rapport au couple de même sexe. Voilà. Je tenais à vous dire dans une première intervention.
Je ne voudrais pas empêcher quelqu'un d'intervenir en prenant abusivement la parole, mais j'ai quand même très envie de le faire. Au risque de choquer peut-être. Le discours que tu viens de tenir, Aristide, je trouve qu'il est plein de bonnes intentions et de bonnes pensées, et je trouve qu'il est déconnecté de la réalité. J'ai envie de réagir sur deux choses que tu as dites, enfin, que tu as dites, que l'Église dit volontiers, hein. C'est pas toi spécialement que je vise. L'Église rejette les discours empreints d'homophobie. Moi, j'ai envie de raconter une histoire qui remonte à une vingtaine d'années. Ça se passait dans la rédaction d'un journal local. Et les deux acteurs de cette histoire sont deux hommes. Un qui s'appelait Benoît et un autre qui s'appelait Frédéric. Ils étaient donc dans l'exercice de leur travail de journaliste. Un attendait que l'autre rende l'article pour pouvoir le mettre en page. Et Benoît, qui avait 26-27 ans, venait de prendre conscience qu'il était, enfin de prendre conscience, venait d'admettre, de regarder en face le fait qu'il était homosexuel. Et à un moment, Frédéric, qui était donc dans toute la, ça se passait à 9h ou 10h du soir, qui était dans toute l'ébullition d'un travail nocturne de journaliste, s'est écrié, mais il va me rendre bordel, il va me rendre son article, ce PD. Et il y avait absolument, de la part de Frédéric, absolument aucune intention de blesser qui que ce soit. Il n'a fait qu'employer un langage courant qu'on entend tous les jours autour de nous, que chacun de nous peut-être emploie. Et j'ai vu Benoît se décomposer littéralement. Voilà, fin de l'histoire. Moi, c'est là que je me suis dit, il y a un problème quelque part. Vous aurez peut-être envie de réagir ensuite. Et la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que tu dis, et l'Église dit, que l'intimité d'une personne et son orientation sexuelle sont des éléments qui ne concernent que la personne elle-même. Oui, sauf que notre orientation sexuelle, qu'on le veuille ou non, elle est visible. Et tout spécialement en ce qui concerne une personne homosexuelle. Alors comment on résout la quadrature du cercle ?
Voilà, bon, bah, écoutez, très simplement, je m'appelle Stéphane, je suis en l'occurrence le délégué régional du refuge à La Réunion. Je m'occupe des jeunes homosexuels, on va les appeler comme ça, qui ont eu la chance d'avoir des parents qui les ont mis à la porte du fait de leur orientation sexuelle. De façon un peu courte de me présenter, c'est pas celle que je préfère. J'ai le plaisir d'avoir rencontré un autre Stéphane qui est plutôt intelligent et brillant, ça je le reconnais. C'est la flatterie cadeau. Hein. Voilà, il ne m'a pas payé, je vous rassure. Il y a un échange qui a été, je peux l'avouer, relativement performant entre nous, dans le sens où nous avons su débattre, même si nos convictions sur certains aspects peuvent être différentes. Voilà, donc c'est un peu lui qui m'a invité à venir. Je ne suis qu'un pur laïc, je le reconnais, hein, je n'ai pas de discours sur le sujet. Je voulais juste intervenir sur, surtout pas sur l'actualité parce qu'elle est assez chargée à mon goût et assez désagréable en l'occurrence. Là-dessus, je ne ferai aucun aspect qui soit sur les coqs et les poules et les choses comme ça qui ont pu être dites dans la presse et qui sont regrettables par des gens d'église à mon goût. Quand on parle de ne pas comparer et de ne pas juger de la sexualité de quelqu'un, je trouve que dans ce propos, ça a été jugé. Je pense qu'en bon catholique d'origine, je dirais que je laisserai le jugement aux instances supérieures sur le sujet. Je voulais vous dire qu'il y a une souffrance, à vous préciser qu'il y a une souffrance individuelle. Moi, j'en rencontre assez souvent des gens qui ont 17, 18, 19 ans. Il y en a un, je tiens à votre disposition les textes avec qui j'ai discuté tout le week-end, qui vit dans un squat du côté de Bois d'Olive, qui a 18 ans, qui a été mis dehors il y a quelques mois de la part de ses parents qui sont mariés, etc. etc. Qui se prostitue pour essayer de payer son forfait. Quand vous avez 18 ans, quand on sait qu'il y a un taux de chômage en l'occurrence de 60% chez les 18-25 ans, qu'est-ce que peut faire un jeune de 18 ans livré à lui-même? Pas grand-chose, hélas. On a la chance d'avoir un petit jeune de 19 ans qui nous a permis de lui fournir des vêtements. C'est regrettable, à mes yeux, regrettable. Je ne veux pas passer sur l'actualité parce que ça m'intéresse pas du tout. Je vais juste dire que si notre société pouvait être sur le sujet beaucoup plus ouverte et beaucoup moins hypocrite, c'est très clair. Ça permettra à ces jeunes de considérer qu'ils ont un avenir potentiel et non pas un suicide lent à mener. Suicide lent, c'est la prostitution, les comportements à risque. C'est quelque part aussi, y en a d'autres qui se suicident, hein. Si vous allez aux urgences, apparemment au CHR, si vous voyez avec Odayen, qui est la présidente d'SOS suicide, prévention suicide, le nombre de jeunes qui sont victimes, c'est 50% d'entre eux dont l'orientation sexuelle n'est pas la même que celle du commun. Et ces 50% d'entre eux vont attenter à leur jour de toute façon, c'est-à-dire un jeune sur deux au niveau des suicides. C'est dramatique, c'est là où... J'invite, dans ce débat, à beaucoup d'ouverture sur le sujet, parce que le sujet est compliqué, et sans jugement de ma part, en tout cas.
Je tiens à remercier Stéphane, on va pas se faire des... mais d'être là, c'était pas simple. Mais je rappelle que c'est le fondement du Centre Saint-Ignace, hein, de ces soirées, c'est-à-dire d'initier depuis plus de 10 ans maintenant à La Réunion un lieu de débat. On peut s'entendre au sens fort et noble du terme, dans des différences qui, le plus souvent, dans la vie sociale ordinaire, sont du conflit, sont de la surdité mutuelle. J'ajoute une deuxième chose, pour avoir discuté ensemble l'autre jour, c'est que c'est quand même étonnant que, quand on entend le drame qui est derrière ça, que Stéphane, qui est donc délégué régional du Refuge, qui est un organisme national, c'est quoi, c'est un statut associatif au plan national, hein, associé, n'arrive pas à trouver de local pour accueillir ces jeunes. Et moi, bon, je ne veux pas aller trop vite dans nos échanges, et puis j'ai vu vraiment que ça circule, mais plus je me suis mis à travailler cette question, je fais quand même un petit retour en arrière. Quand on a commencé à envisager ce thème, on aurait pu y aller cool. C'est-à-dire faire une bonne soirée, fondement anthropologique, fondement théologique. Hein. J'allais dire, on se rassurait nous-mêmes et on n'allait pas se convaincre puisqu'on l'était déjà. prendre autrement les choses, hein, c'est bien rejoindre toute cette réalité humaine. Et je me dis du coup, enfin, une des questions qui m'habite à force d'avoir préparé cette rencontre, c'est que je me dis, mais finalement, ça concerne l'Église, mais ça concerne tous les groupes sociaux de notre société. Il n'y aurait pas de tel rejet. Est-ce que finalement, on aurait eu une telle quête, une telle requête d'une loi particulière, enfin oui, d'une loi qui vienne modifier et qui va peut-être plus loin, d'une certaine manière, que la demande. Et c'est pour ça que vous voyez que dans ma présentation, hein, finalement, la question qui me semble peut-être première, c'est cette non-acceptation de l'autre dans ce qu'il est, ce rejet, ce qui devient un rejet, et qui alors va comme tout rejet, générer des revendications qui, d'une certaine manière, si vous permettez le propos, toute proportion gardée à ce que je viens de dire, hein, vont devenir aussi exagérées que la situation qui les a provoquées. Voilà, je lance ça, mais. J'espère que je n'ai pas empêché d'autres prises de parole entre-temps.
Bonsoir, je suis Colette Deschamps, je suis psychologue. Je suis vraiment très contente qu'un débat de fond s'ouvre en milieu chrétien sur le sujet. J'espère que ce sera vraiment un vrai débat de fond, c'est-à-dire qu'on ne sera pas juste, comme disait Françoise, à se gargariser de beaux mots et de bonnes intentions, parce que ça, on le voit tout le temps dans tous les milieux, dans l'éducation nationale où j'étais, on voit ce qu'il faudrait faire avec les enfants, et quand on a dit ce qu'il faudrait faire, on est content parce qu'on a l'impression de l'avoir fait. Je crois qu'il faut être vraiment authentique pour avancer, et c'est un sujet qui est vraiment riche parce que il pose toutes les vraies questions au niveau de l'humain. Et on n'a pas non plus à être, on dit qu'il ne faut pas être dans le rejet des homosexuels, mais il ne faut pas non plus être dans le rejet des homophobes. Et il faut oser dire, quand on est homophobe et quand il y a quelque chose qui vibre en nous, contre ça, c'est un premier pas pour comprendre et pour dépasser cette homophobie. Je ne suis pas homophobe, mais par contre, si je regarde, si je me dis, qu'est-ce qui se passerait si mon fils m'annonçait que... là, il y a quand même une petite vibration qui est difficile. Et à partir de là, à partir du moment où j'ose regarder ça, peut-être je peux me poser des vraies questions du pourquoi, des implications. Alors, je crois qu'il faudrait aussi un jour regarder les choses en face, c'est-à-dire du point de vue du psychologue, au point de vue de l'évolution de chacun. On passe tous par une phase homosexuelle où on est attiré par les personnes de même sexe. Ça fait partie du processus évolutif de l'individu qui se structure puis qui après passe à autre chose. Et au niveau biologique, enfin, il faudrait vraiment regarder qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que finalement on fait ce choix, parce qu'il y a une part de choix de vie quelque part, même si ce choix n'est pas conscient. Il y a une chose qui m'a un petit peu gênée, c'est quand vous parlez d'identité sexuelle. Notre identité sexuelle, bon ben on est homme, on est femme. Maintenant, après ce qu'on en fait, comment on le vit, ça c'est encore autre chose. Et puis il y a tellement de choses dans ces choix de vie, de vivre avec une femme ou de vivre avec un homme. Il y a plein de choses. Sous ce même mot homosexuel, il y a énormément de choses. Il y a l'homosexualité de circonstance. Les femmes de 65 ans, elles ont du mal à trouver des hommes de 65-70 ans parce qu'ils choisissent des jeunettes. Donc bravo si elles trouvent une compagne avec qui elles peuvent vivre, pas forcément sur le plan sexuel, mais une amitié, une affection, enfin quelque chose. Ça peut tourner à l'homosexualité de circonstance, etc. etc. Il y a vraiment des tas de formes d'homosexualité, des tas de formes de choses très différentes dans ce terme-là. Donc je crois vraiment qu'on ne peut pas faire l'économie de regarder à fond tout ce qui se passe. Maintenant, il y a une chose qui est claire. Il y a beaucoup d'amalgame de faits sur ce sujet-là. Et on peut refuser ce choix. Ok, c'est un choix de vie, mais il y a une différence, et on ne fait souvent pas la différence entre refuser un comportement ou questionner un comportement et rejeter des personnes. Et je crois que vraiment, entre chrétiens, on a à faire cette différence-là. Heureusement qu'on a des normes, elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes, mais on a des normes par rapport à nos comportements, c'est très bien. Mais rejeter les personnes qui ont des comportements qui ne nous conviennent pas, c'est autre chose. Et on franchit souvent le pas par rapport aux délinquants, par rapport aux criminels aussi. Et je crois que vraiment saisir ça en tant que chrétien, que on a à... c'est normal qu'on ait un certain ressenti par rapport à des comportements et qu'on cadre des comportements en tant que parent. Mais ça ne veut pas dire qu'on rejette. Et d'ailleurs, j'entends beaucoup de parents qui disent « je t'aime plus, tu es un voleur, je t'aime plus ». Non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, ni en tant que parent, ni en tant qu'éducateur, ni même en tant qu'adulte. Identifier la personne à ce qu'il fait, ça c'est vraiment la première chose à ne pas faire. Les gens ont un choix de vie, peut-être ils peuvent ne pas nous convenir, mais en tout cas, quoi que soit ce choix de vie, la personne, c'est un être humain, c'est une créature merveilleuse, hein, c'est une créature de Dieu, on l'aime, on la respecte. Je crois que ça, c'est vraiment le béaba. Et il y a beaucoup d'amalgames comme ça. Rejeter un comportement, rejeter la personne, mélanger tout ce qu'il peut y avoir derrière ce comportement, alors qu'il y a des choses très différentes, enfin, etc. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à clarifier et à poser clairement, mais avec sincérité, parce que si on se gargarise de mots, alors là, franchement, on perd notre temps.
C'est bien dans ce sens-là où je disais démarche d'humilité. Je signale, puisque c'est aussi l'occasion de se donner des références, si je puis dire, vous avez eu tout un dossier dans le dernier numéro de La Vie, qui interroge entre autres quelques psychiatres, psychologues, sociologues, philosophes, théologiens, etc. C'est intéressant aussi d'avoir des échos comme ça. Autre personne.
Alors j'aimerais revenir juste un petit moment Élie. Sur... Élie, hein, oui. J'aimerais revenir juste un petit moment sur un propos tenu par Aristide il y a quelques instants. Avec beaucoup d'humilité de ma part, hein. Tu viens de parler d'humilité, et Françoise a parlé tout à l'heure de vocabulaire. Oui, Aristide disait, il ne faudrait pas dire, et c'est une pré- préconisation, d'après ce que j'ai compris, union civile entre deux personnes homosexuelles, mais plutôt union civile entre deux personnes de même sexe. Alors j'aimerais savoir s'il y a une différence fondamentale ou alors cette différence tient seulement au choix d'un vocabulaire politiquement plus correct, ce qui serait encore un moyen de se cacher.
Je vais répondre à mon degré, hein, donc avec juste dire mariage d'un même sexe, c'est le mariage de deux personnes d'un même sexe et non pas un mariage homosexuel. La sexualité est une composante de nos vies, c'est pas ce qui nous rend remarquables, c'est juste un degré. Tous les gens que je connais qui sont homosexuels, il n'y a pas de mariage hétérosexuel, hein. Il y a un mariage entre deux personnes qui s'engagent, alors sous l'égide de Dieu pour le mariage religieux, hein, et je vais vous dire un petit secret, pour moi le mariage religieux c'est un homme et une femme, comme ça je vous le laisse, c'est sans problème pour moi, ça ne me dérange pas. Mariage civil, c'est la consécration par l'État. Je reviens sur l'actualité rapidement ou sur le sujet parce que justement vous y venez. C'est la concrétisation et la reconnaissance par l'État que deux personnes d'un même sexe n'ont pas le droit qu'à la tolérance et qu'à un présent, mais ils ont aussi le droit à un avenir. Et donner le droit à un avenir, c'est éviter justement, je vais revenir sur les jeunes de 17 ans qui finissent dans les hôpitaux psychiatriques en bas des ponts ou à se prostituer. Donner un avenir, c'est donner de l'espoir. Je pense que je suis dans une congrégation où l'espoir, c'est quand même un motif qui vous fait vivre vous aussi. Donc on ne peut pas refuser l'espoir aux gens. Donc mariage, pour moi, c'est le mariage de personnes d'un même sexe, pas d'un même sexe justement. Pour moi, je suis en train de me prendre les pieds tout seul, c'est extraordinaire ça.
C'est pas grave.
Je ne sais plus. Voilà, c'était juste pour dire que je considérais que la sexualité était un deuxième degré dans le mariage et mettre cette interprétation en permanence, c'est ce que je regrette au niveau des médias. On ne parle que de ça. On a le droit d'exister dans cette société, je crois que au même titre que quiconque. Oui, mais c'est la conclusion de la terminologie, c'est ça qui est dérangeant. Ouais. C'est que quand je dis gentiment « nous sommes aussi homosexuels », je vous rappelle qu'on est aussi geek, on fait aussi la cuisine, on fait du jardinage, on va travailler, etc. On est une composante. La sexualité est une partie de la personnalité. C'est pas, vous savez, c'est ennuyeux hein, d'être traité d'homosexuel à longueur de journée. Hein. C'est absolument épuisant. La réaction première, ça serait l'envie de traiter les gens d'hétérosexuels. Mais enfin, c'est pas drôle parce que c'est normal. Hein, comme phénomène.
Par contre, moi, je souligne une phrase que tu as eue. Je sais pas si tu l'as déjà utilisée ailleurs, mais je la trouve très forte. Passer de la tolérance à donner un avenir.
Juste une petite chose par rapport à ça. J'ai un peu le sentiment qu'il y a déjà eu un avenir de quelque part, de donner avec le Pax, c'est-à-dire ceux qui veulent s'engager et avoir une relation affective durable et être dans une protection réciproque, ils ont le Pax.
Sans la filiation. Je vais laisser répondre Philippe.
Oui, bonjour. Philippe.
Excusez-moi. Il faut bien le.
D'accord. Bon, moi, je suis venu ce soir parce que c'est un peu par curiosité de voir un petit peu des catholiques débattre sur un sujet de la façon dont ça allait se faire. Personnellement, je suis athée, donc l'antipode de tout ce que vous pouvez croire. Mais c'est pas le sujet. Je voulais rebondir sur deux choses. La première, vous parliez du Pax. Alors effectivement, le Pax, c'est un premier pas. Mais le Pax n'était pas suffisant. Alors, il aurait peut-être fallu appeler ça un Pax plus plutôt qu'un mariage. Mais il fallait que les homosexuels aient les mêmes droits que les hétérosexuels, à savoir en termes d'héritage, de conversion de retraite, par exemple, qui sont aujourd'hui des choses auxquelles ils n'ont pas accès. Et ça, c'est un gros problème d'égalité. Et je pense qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui revendiquent aujourd'hui un mariage, justement pour avoir accès à une égalité de droits, tout simplement. Je vais m'arrêter là pour l'instant, je pourrais réintervenir plus tard.
Quel côté on fait circuler le micro ? Ne nous arrêtons pas en chemin. J'ai l'impression en vous écoutant là à l'instant, mais dès que vous les parlez, je me tais. Mais c'est pas pour remplir, mais simplement, on voit poindre un peu cette distinction entre
ce qui relève des droits individuels, finalement, des droits de toute personne, et puis ce que met en cause le projet de loi, c'est-à-dire le fondement social. Et c'est là où je pense qu'il y a une grande confusion dans beaucoup de débats aussi, entre ce qui est de l'ordre du droit des personnes, disons, aussi bien dimension affective, dimension économique aussi, parce que c'est pas n'importe quoi d'évoquer ces questions d'héritage, de conversion de retraite, etc. Mais ça ne se confond pas avec le plan de la société dans son entier et des fondements qui la structurent.
Merci Roger Gault. Voilà, la question que j'aimerais poser à l'Assemblée et à toi en particulier Stéphane. Ce débat, donc, on l'a initié. Alors, d'abord, une petite parenthèse, merci. Hein, parce que je crois que dès que l'on met le mot foi et le mot sexualité, c'est comme si on mettait de l'eau de Javel et du Perrier. On ne peut pas mélanger ensemble. Ça va faire du dégât.
J'ai jamais essayé.
Ça va faire du dégât. Et pour une fois, dans l'Église, on parle de sexualité. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Merci. Et j'espère qu'il y aura d'autres débats sur d'autres thèmes qui me tiennent à cœur, comme les divorcés et remariés, comme la sexualité des prêtres, comme si les prêtres étaient des êtres asexués. Tout ça, je trouve que ce sont des choses dont il faudrait qu'on débatte. Et je rejoins Colette quand elle disait qu'un débat comme aujourd'hui, ce serait dommage que ça ne reste que quelque chose, un saupoudrage. Et je suis très heureux que ce débat ait pu avoir lieu. Mais la question qui pour moi, va au-delà de tout ça, c'est qu'effectivement, quand on entend les drames comme on les a entendus tout à l'heure, oui, on ne peut être que choqué et bouleversé. Mais au-delà de tout ça, on est quand même devant, je vais employer des grands mots, mais devant un bouleversement ontologique. C'est-à-dire que c'est la société qui est en train de remettre en cause des fondements, je dirais, constitutifs, en particulier la notion de mariage. Ok. Admettons que demain ce texte passe. Actuellement, d'après les sondages BVA, les Français seraient à peu près 50% pour, 50% contre. 61% pour. Enfin, moi, j'avais entendu.
Ça bouge.
Ils sont 61%, le dernier date du 20 octobre. Ils sont 61% pour. Et, alors, je vais rajouter l'adoption parce que comme ça, en passant, ce sera fait. Ils sont 51% pour. Donc. Je vous rassure sur une chose, sur les sondages, hein, qui est très clair. Si sur le droit de vote des femmes, on avait fait un sondage à l'époque où c'était que les hommes qui votaient, je peux vous assurer que les femmes n'auraient jamais voté si on avait fait un référendum sur le sujet. Sur bien d'autres sujets, ça s'est passé comme ça. Les hommes auraient préféré avoir les femmes au champ que de les avoir à les embêter sur le sujet. Donc là aussi, se baser sur les sondages et les choses comme ça, pour l'instant, ils nous sont favorables. Soyons honnêtes, mais après on verra.
Je me permets de vous reprendre parce que moi je n'ai pas eu ce sondage-là. J'ai écouté la télé il y a deux jours là et c'était aux 20h de TF1 ou d'Antenne 2, je ne sais plus, où il disait 50-50. C'est pour ça que je le lance. Mais je ne vais pas me battre sur vous pour les sondages, ce n'est pas du tout ça le but de ma question.
Oui,
bon, mais bon. C'est pas ça. Ça c'était simplement oui. pour dire que.
Rappelons que les sondages ne sont qu'indicatifs.
Ne sont qu'indicatifs, puis c'est pas ça, hein, je veux dire. C'est pas, c'est... Oui. Mais oui. La question que je me pose, moi, et oui. c'est là où je vais en venir, quand oui. je dis qu'on était vraiment un tournant ontologique, c'est qu'on sait très bien que au-delà du mariage homosexuel ou du mariage pour tous, peu importe comment on s'appelle, c'est une porte ouverte vers sans doute un jour l'adoption pour des couples de même sexe, avec ce que ça va poser comme problème ou comme non-problème dans 30 ans pour ces enfants qui ont été élevés par deux papas ou deux mamans. Et puis ça veut dire aussi que ça va nous entraîner à remettre en question tout ce qui a trait aux mères porteuses, aux procréations artificielles assistées, etc. Et c'est en ce sens-là que je trouve que le débat est intéressant, parce qu'à mon avis, si on se contentait de dire est-ce qu'on remplace le PACS par le mariage civil, etc., je pense que au point de vue ontologique, ça ne poserait pas problème. Point de vue ontologique, hein, j'entends. Mais là, si on va jusqu'à l'adoption mère porteuse et compagnie, là, c'est vraiment la société et je dirais les fondements de l'humanité qui sont remis en question.
Je vais juste vous répondre sur le sujet.
Mais
sur,
c'est bien ça, évitant que ce soit. Ça se bouscule au portail.
Alors, il y a un sujet sur ce qu'on appelle la PMA, la procréation médicalement assistée. Je peux vous l'avouer, de toute façon, je l'ai dit à Stéphane. Je fais partie, comme bon nombre d'entre nous, à y être opposé, moi, personnellement. Hein. Ça n'a aucun rapport. Je parle toujours des mêmes sujets, ce que j'ai dit à Stéphane. Je parle du mariage civil et de l'adoption. Je ne parle de rien d'autre. Et je n'irai jamais. Et je fais partie, justement, de ceux qui sont contre, de toute manière. Et je ne suis pas le seul. Le reste après, les politiques sont aussi des gens bien étranges, qui poussent un peu plus loin que les réalités, à mes yeux. Je peux vous l'avouer, hein, c'est tout, ça s'arrête là, sur la caution. Donc moi, je ne suis pas favorable non plus à la PMA, je vous rassure, hein, sans aucun problème. Mon souhait, ça serait surtout que le mariage, pour moi, déjà, reconnaisse une égalité de droit, et que l'adoption vienne derrière. De toute façon, il vaut mieux qu'un enfant soit élevé par deux personnes que par une seule, ou qu'il soit dans un orphelinat. On parle toujours de l'adoption, donc de toute façon, ça ne crée pas de problème.
Merci. Philippe, et ensuite Aristide.
Oui, merci. Moi, je voudrais juste rebondir sur une chose qui m'a choqué, un argument qu'on entend très souvent par rapport à l'adoption. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis 30 ans, les homosexuels adoptent tout légalement. Qu'il y a eu des études faites, notamment au Canada, qu'il y a eu des... je pense notamment à Daniel Ruffaut, pédopsychiatre, hein, qui a déclaré, je vais vous le citer, voilà, Daniel Ruffaut, il dit « Grandir dans un foyer homoparental ou d'un couple homosexuel n'a jamais posé de problème. » Et ça, c'est 30 ans d'études de suivi d'enfants. D'accord ? Donc aujourd'hui, les études qu'on a démontrent que ça ne pose pas de problème. Ce qui pose un problème, c'est le regard que vous portez. C'est ça le problème.
Que nous portons.
Oui, oui, oui. Parce que vous portez. Je vous rappelle un petit peu quelque chose.
C'est qu'il n'y a pas... On n'a pas un bloc...
Oui. Je vous laisse, bien sûr... Je vous rappelle, par exemple, je vais vous citer quelque chose, on va voir si ça vous rappelle quelque chose. Ceux qui font vacciner leurs enfants sortent du peuple de Dieu car ils mettent une entrave au châtiment divin. Ça vous dit quelque chose, ça? Ça, c'est l'Église qui interdisait la vaccination des enfants contre la variole.
Voilà. À quelle époque?
Il y a 40 ans, en France. Vous voyez?
C'est un exemple. C'est pas l'Église catholique.
Si, monsieur, c'est l'Église
catholique. Non, c'est pas possible. On vaccinait les enfants dans les pays de mission.
Si, ben oui.
Bon.
Je vous donne d'autres exemples.
Non, j'aimerais. Là, ça, franchement,
non,
ça m'a beaucoup...
Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est bien que l'Église s'interroge, qu'il y ait des débats au sein de l'Église. Mais je pense qu'on est une société qui est laïque avant tout. Et je ne sais pas s'il est pertinent que l'Église dicte le comportement au reste de la population et essaie d'imposer ses vues.
Moi, j'ai envie de répondre à ça tout de suite parce que c'est quelque chose que j'ai lu sur la page Facebook, je crois, ou sur le site de LGBT, je ne me rappelle plus, et puis qu'on entend assez couramment. Moi, je suis catholique. Quand je prends la parole, je suis quelqu'un de l'Église qui parle et je vais pas, de même que je ne mets pas ma sexualité de côté quand j'existe, je ne mets pas ma foi de côté quand j'existe. Alors, il n'est pas question que l'Église impose quoi que ce soit, mais tous les catholiques ont le droit de faire entendre leur voix. Et il se trouve que dans tout groupe, il y a des leaders qui sont des porte-parole, et je trouve qu'il est légitime qu'ils fassent entendre leur voix. Pour moi, c'est une critique,
mais
elle est non-avenue.
Non, mais là, j'ai du mal à m'exprimer, parce que je suis entièrement d'accord sur le fond avec ce que vous venez de dire. Évidemment, tout le monde a le droit de s'exprimer. C'est évident.
Aristide. Le micro, s'il te plaît, Philippe. Aristide. Et après, il me semble qu'il y a quelqu'un par là, non? Thérèse.
Alors, lorsque le président était candidat, donc dans son programme, il y avait cette 31e proposition. Était bien définie. Hein. Donc, il proposait donc de faire passer la loi pour le mariage des homosexuels, l'adoption par les homosexuels, par les couples homosexuels, et également la PMA. Bon, mais par contre, il rejetait la GPA, la gestation pour autrui, parce qu'il disait, c'est de faire du commerce de son corps, quoi, finalement. Bon. Donc, voilà les trois points dans sa proposition. Maintenant, dans le projet de loi, pour l'instant, enfin, dans l'avant-projet de loi, on ne va pas jusqu'à la PMA. On ne parle que du mariage civil des couples homosexuels et de l'adoption par les couples homosexuels. Bon. Donc ça, c'est déjà, ça va. Je pense que ça vous satisfait puisqu'il ne parle pas de PMA. Bon, pour l'instant, je pense. Mais vous avez quand même des députés qui ont dit, de toute façon, eux, ils n'ont dit que ça, mais nous, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on va proposer des amendements pour la PMA. Il y en a même qui ont dit, on va demander aussi la GPA, la législation pour autrui. Mais le problème, c'est que pour ces deux éléments-là, on vient de voter en 2011, on a réactualisé la loi de la bioéthique. Donc pour ces deux éléments, ça fait partie de la loi de la bioéthique. Et pour l'instant, la PMA s'est réservée seulement aux couples mariés, dont la femme, l'un des deux, est des éléments d'infertilité, etc. Bon. Et pour la GPA, pour l'instant, ça a été rejeté. Voilà. Donc ça, maintenant, dans l'avant-projet de loi, là maintenant, on parle des articles du Code civil. Et au niveau de l'UNAF, ce que nous avons analysé, quelles sont les conséquences par rapport au droit actuel. Et c'est, ça aussi, c'est important. Bon. Donc, mariage civil, et dans les articles de Code civil, on supprime, là où il y a père et mère, on supprime les mots père et mère, et on remplace par parents. C'est peut-être un petit peu gênant pour les 14 millions de couples mariés qui, pour l'instant, qui sont père et mère, quoi. Bon. Donc, on a commencé à discuter là-dessus. Faut-il supprimer les mots père et mère dans tous les articles du Code civil? Et il y en a beaucoup, hein. On en a compté, il y a près de 300. Bon. Le droit fiscal, et tout dans beaucoup d'articles où on parle de père et de mère. Bon. Alors, ça, c'est une première question. Après, il y a le problème de la présomption de paternité. Alors, qu'est-ce que ça va devenir? Bon, présomption de paternité à l'intérieur d'un couple de deux hommes ou d'un couple de femmes. L'enfant est là. À un moment donné, il peut se poser et dire, mais, qui est mon père? Bon, et comment on va répondre à ça? Il va chercher, quand on est adolescent ou même avant l'adolescence, on veut savoir qui est son père ou qui est sa mère. Maintenant, à partir du moment où on n'utilise plus le mot père ou père. Donc peut-être qu'il faudra aller aussi vers la suppression de la présomption de paternité. Ou ajouter autre chose, quoi. Donc on a posé ce problème de la présomption de paternité. Donc, et qui dit mariage civil, et là je suis entièrement d'accord avec lui, qui dit mariage civil, donc forcément filiation. Forcément filiation. Bon. Donc, dans la filiation, il y aura forcément, au niveau des couples de même sexe, donc, enfin, excusez-moi d'utiliser le mot même sexe, enfin, de couples d'hommes ou de couples de femmes, donc il y aura, ça va passer forcément par l'adoption. Adoption plénière ou adoption simple, et là on a analysé aussi. On a analysé, est-ce que, compte tenu du droit actuel, est-ce qu'on peut aller dans ces couples vers l'adoption plénière ou vers l'adoption simple? Donc ça a été tout un travail. Bon. C'est très technique finalement. Parce que dans le Code civil, pour l'instant, un enfant ne peut pas avoir deux pères. Un enfant ne peut pas avoir deux mères. Bon. Donc tout ça a fait que finalement, au niveau de l'UNAF, donc majoritairement, on a été contre le mariage civil par rapport à toutes ses conséquences, suppression, etc. Mais on a dit, allons, comme en Allemagne, vers une union civile et ces couples-là auraient pratiquement les mêmes droits que pour les couples hétérosexuels. Voilà. Voilà. Donc, on garderait tout ce qui existe actuellement dans le Code civil et il y aurait l'union civile avec pratiquement tous les droits. Donc là, c'est... j'ai des documents, c'est très long. Donc, mais voilà un petit peu la réflexion qui a été menée au niveau de l'UNAF. C'est d'étudier les conséquences par rapport au droit. Hein, et par rapport au droit actuel, Donc, voilà, droit civil, mariage civil, quelles sont les conséquences, et puis adoption, plénière. Bon, c'est vrai que pour l'adoption, on peut envisager, à partir du moment où il y a l'union civile, on peut envisager, bien sûr, des choses très intéressantes concernant l'adoption. Donc, voilà, c'est la proposition est celle-là. Je ne sais pas si le gouvernement va retenir ces.
Quand il dit la proposition, c'est proposition de l'UNAF.
De l'UNAF, oui.
Donc
l'UNAF.
Directement au gouvernement.
Oui, puisque l'une des missions de l'UNAF, c'est de donner avis sur tous les projets de loi concernant la famille au gouvernement. Donc là, cette annonce a été remontée. Alors demain, il y aura donc la présentation en Conseil des ministres du projet de loi. Avant, c'était l'avant-projet. Alors, est-ce que ce projet de loi tiendra compte déjà de ce qui a été dit, de ce qui a été étudié, ou est-ce qu'ils vont maintenir ? Bon, maintenant, on verra. Mais enfin, de toute façon, la présentation du projet de loi, c'est demain. Après, je pense que les commissions parlementaires vont accueillir toutes les institutions qui doivent oui. donner leur avis. Et il est prévu que le débat devant le Parlement ait lieu donc en janvier. Bon. Voilà. Donc,
merci.
Maintenant, on peut être beaucoup plus long concernant chaque point.
Thérèse, je crois, vous voulez parler ? Non ? Oui. Puis je reviendrai à ta question, Roger, après, ontologique.
Moi, je suis... voilà, je suis assez mal à l'aise, je dirais, hein, de prendre la parole, mais j'ai le sentiment que je dois le faire aussi. Parce que, d'abord, revenons un petit peu, dès le départ, un petit peu à ce que nous avons parlé d'homophobie. Il est évident que chez les chrétiens, moi je suis chrétienne, je suis pratiquante, et j'estime que nous devons aimer toutes les personnes, tous les êtres humains, et que nous n'avons pas à faire de différence entre les uns et les autres, qui que ce soit, le clochard, l'ivrogne, tout ce qu'on veut, ce sont tous des personnes qui sont respectables et pour nous et qui doivent être respectées. Donc, on a parlé d'homophobie et j'ai le sentiment qu'on fait un... Vraiment, je suis mal à l'aise parce que je ne vais pas raconter ma vie, mais je vais vous dire. J'ai un gendre qui est homosexuel. Ils sont divorcés maintenant, ma fille est divorcée. Et ce gendre, je l'aime, je continue à l'aimer, à le fréquenter, même s'ils sont séparés, ma fille et lui, et je continue à le porter dans mes prières, à le respecter. Il est toujours mon gendre pour moi. Il est toujours le père de mes petits-enfants, et je le respecte, et je le reçois chez moi, et il n'y a aucun problème. Donc, quand on parle d'homophobie, on a... Je veux dire, quand on parle de ce qui se passe en ce moment, je suis troublée, c'est vrai. On a l'impression de faire un peu l'amalgame. C'est-à-dire que si on n'est pas pour le mariage entre personnes du même sexe, ça veut dire qu'on est homophobe. Ça, je proteste contre ça. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai du tout. Si on a le sentiment, chacun peut s'exprimer, de dire que le mariage entre personnes du même sexe, aujourd'hui, notre société, j'ai pas le sentiment que notre société est prête pour cela, aujourd'hui. On va souvent vite et très vite dans notre société, on s'aperçoit après que les soi-disant progrès font des dégâts beaucoup plus importants que si on n'était pas allé aussi vite. Alors je dis que ça mérite réflexion. Je ne dis pas que je n'en sais rien, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, quelle est la décision qui va être prise, mais je pense que ça demande réflexion. C'est un bouleversement de notre société qui est en cours, absolument. Il y a là une désintégration de notre société, il y a le droit lui-même, le code civil qui va être complètement chamboulé. Et je trouve ça pour un principe. Je veux dire, on peut ajouter ces personnes qui veulent vivre ensemble et qu'on reconnaisse leur amour. Moi, pour moi, ça ne pose pas de problème. Mais quand on me parle de filiation, je me dis, il ne peut pas y avoir de filiation, parce que pour avoir la filiation, ça veut dire pour avoir un enfant, il y a l'apport d'une partie féminine et d'une partie masculine. Et quand on me dit, oui, mais il y a des couples homosexuels qui ont adopté depuis 40 ans et qui se portent bien. Ok, il y a une personne qui a adopté et qui est le père. L'autre est le copain du père, comme souvent dans des familles hétérosexuelles, on parlera comme ça. Je déteste l'identité religieuse parce que nous sommes tous des êtres sexués et notre orientation sexuelle n'a pas à être étalée au jour. Je n'ai pas envie, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'exagération aussi là-dedans, peut-être beaucoup de provocations aussi, et peut-être c'est un peu le résultat aujourd'hui de ce qui s'est passé. Parce qu'on n'avait pas besoin de... Voilà, on a son orientation sexuelle, on l'assume, et nous, et ben nous l'acceptons parce que ce n'est pas notre choix à nous, c'est notre fait. Mais vraiment...
Marie-Thérèse, puisque tu es aussi à la MAFA, enfin, tu t'occupes de toutes ces associations...
Tu parles, oui. Bon.
Dans ces contacts avec des familles, qu'est-ce qu'on entend par rapport à leurs enfants, par exemple, ou même par des couples...
Alors justement, c'est mon expérience, moi, auprès de familles en difficulté, qui me fait dire aujourd'hui qu'il y a danger pour l'enfant. Aujourd'hui, les personnes qui viennent nous voir, qui sont en très grande difficulté, il y a toujours au départ une carence affective au niveau du père, au niveau de la mère. Et on sait très bien, c'est pas d'aujourd'hui. On a écrit, tout le monde a pratiquement lu le livre de Combo, Père manquant, fils manqué. Il y en a d'autres, je ne vais pas toutes les citer. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne peut pas aujourd'hui décider de dire que il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère. Il y a un parent numéro un parent numéro deux, ou deux mamans. C'est la confusion dans l'esprit d'un jeune enfant. Un enfant ne peut avoir qu'un papa, qu'une maman, naturellement. C'est comme ça. De toute façon, c'est la nature même qui l'a prévu. Et aujourd'hui, je crois qu'on fait fi de ça. Quand on prévoit quelque chose, un texte, un dispositif pour ces personnes, pour que ces personnes puissent vivre leur amour au grand jour, pourquoi pas? Mais pour moi, le mariage et l'adoption, c'est vraiment pour moi, en tout cas aujourd'hui, dans l'état actuel, des connaissances que j'ai, et de ce que j'ai vécu, ce que je vis tous les jours auprès des familles en difficulté, pour moi, aujourd'hui, il y a danger, réellement danger. Et je ne voudrais pas qu'on considère ça. En tout cas, moi, les personnes qui ont d'autres orientations, pour moi, je les aime. Ce sont des amis, ce sont des parents, ce sont des proches. Et il n'y a absolument pas de rejet en ce qui concerne l'orientation sexuelle. Mais par contre, il y a une conviction profonde qu'aujourd'hui, un mariage entre deux personnes de même sexe, pour moi, ça n'est pas un progrès pour l'humanité aujourd'hui.
Je voulais revenir un instant sur la question de Roger, hein. Mais je pense qu'on est bien dedans aussi, là. C'est-à-dire la distinction que j'introduisais déjà tout à l'heure, hein, la confusion qui s'établit, enfin qui est de fait, hein, entre ce qui est de l'ordre de la requête personnelle, individuelle, légitime, et puis ce qui est de l'ordre des fondements de la société. Et là, on touche à l'ontologique. Et puisque j'ai commencé à vous donner quelques références, hein, je ne sais pas si certains ont déjà lu le texte du grand rabbin de France, Gilles Bernheim, où il reprend tous les arguments avancés, si je puis dire. Ce que j'ai particulièrement capté dans son texte, là, et ça rejoint l'ontologique, c'est-à-dire la confusion qui s'établit entre, un peu technique, hein, mais pour être précis, entre parenté et parentalité. La parenté renvoie à la différence des sexes et au fait qu'effectivement, on est nécessairement d'un homme et d'une femme. La parentalité renvoie davantage à la dimension d'éducation. Autrement dit, la parenté, jusqu'à présent, ne peut être assumée que par un homme et une femme, ensemble. La parentalité peut être assumée par n'importe qui, entendez au bon sens du terme, hein, par deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, une seule femme et un seul homme. Bon, c'est cette attention apportée à l'enfant pour qu'effectivement, il puisse grandir dans un cadre épanouissant, etc. Et je trouve important, alors, parce que là on touche bien à l'ontologie, c'est-à-dire la société, elle se structure sur la parenté. Dans toutes les sociétés de l'humanité jusqu'à présent, elle s'est structurée sur la parenté
Et sur la filiation, quand on dit filiation, il faut tout de suite entendre généalogie. Rappelez-vous les grands travaux du maître Lévi-Strauss hein, sur la parenté. Toute société a fonctionné comme ça jusqu'à présent. Ce sont ses fondamentaux. Et c'est ça, et là je trouve qu'il le pointe bien dans son discours, mais il n'y a pas que lui qui le dit. Hein. C'est là où on touche vraiment aux questions ontologiques. Mais ça suppose effectivement de bien distinguer ce qu'est de l'ordre, de la requête légitime personnelle, individuelle, et ce qu'est de l'ordre de la structuration de la société.
Oui, je voudrais dire si l'orientation sexuelle des enfants adoptés se perpétue, ben il n'y aura pas assez de naissances. C'est-à-dire si les enfants ils prennent l'exemple sur les parents, ils ont un compagnon de même sexe, ben, qui vont faire les enfants? Il y aura moins d'enfants et les enfants, ça fait vivre la société. C'est-à-dire que quand un enfant est né, il faut aller au gynécologue, il faut voir le sage-femme, et tout ça, jusqu'à la maîtresse d'école, et tout ça. Ce sont les enfants qui font vivre la société.
Oui, mais je crois qu'en même temps, je m'excuse de vous couper, hein, mais en même temps, il faut raison garder là. C'est-à-dire, personne n'envisage que demain, l'ensemble de la société se transforme je crois qu'il faut être raisonnable là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que là-dessus, et entre autres d'ailleurs, à force de lire des documents, je ne sais plus dans lequel, mais où les chiffres sont donnés précisément. On sait très bien ce que ça représente comme proportion de la société. Ça reste de toute façon des phénomènes minoritaires. Quand je dis minoritaires, c'est en termes de sociologique, hein, de masse sociologique. Donc votre crainte, rassurez-vous.
Non, j'ai pas dit que tout le monde, la société va se transformer, qu'il n'y aura plus du tout d'enfants, mais il y aura moins.
Je voulais juste vous répondre parce que j'ai autour de moi 5 couples homosexuels hein, qui vivent, qui ont des enfants tous. Hein. Certains ont été adoptés, les parents sont séparés. Le premier souhait qu'ont ses parents, je les appelle des parents moi à part entière, c'est que leurs enfants soient pas homosexuels, je vous rassure. Hein. Quand on voit ce qu'ils ont subi, quand on voit ce qu'on a subi nous, je vous rappelle quand même que quand j'avais 17 ans, j'étais un délinquant. Je vous rappelle quand j'avais 29 ans, j'ai eu la chance de ne plus être un malade mental. Oui, excusez-moi. Donc en l'occurrence, la dépénalisation de l'homosexualité a eu lieu en 82 en France. Donc j'avais 19 ans, pardon. Et le retrait des maladies mentales, ça a été en 92. Donc jusqu'à l'âge de l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'à l'âge de 30 ans, j'étais quelqu'un d'absolument différent de vous. C'est-à-dire au niveau de la norme ne m'était pas accessible. Je suis très content aujourd'hui parce que justement maintenant je suis, je vous rassure, quelqu'un de normal. Je ne suis plus ni délinquant, ni malade mental. Mais je reviens sur le fait que je parlais des couples d'amis que j'ai. Ils sont les premiers à souhaiter que leurs enfants soient pas homosexuels. Pour des raisons simples, hein. C'est pas parce qu'on en a honte nous, mais c'est juste parce que la vie est moins facile, beaucoup moins facile. C'est tout. Donc je vous rassure madame, le premier souhait c'est justement d'avoir des petits garçons qui vont avec des petites filles avant tout. Hein. D'abord parce que ça permet de perpétrer ce qu'on appelle l'espèce. Et je vous rassure aussi, le pourcentage des homosexuels dans notre société, enfin dans la société occidentale, ça n'est pas ni plus ni moins qu'avant, et ça ne changera pas grand-chose selon moi, et ça sera assez constant. Et ça va continuer.
Et je rappelle quand même une des phrases que j'avais citées dans mon introduction, ça ne relève pas d'abord d'un choix. Mais ça pour tout le monde, quelle que soit l'orientation sexuelle, pour le coup. Hein. Donc je crois que c'est là où il faut vraiment raison garder sur ces thèmes-là. Daniel.
Oui, je voudrais dire à Stéphane que j'ai lu tes 4 pages là et j'ai vu ton souci d'être attentif à la personne humaine. Et dans tous ces débats que j'ai entendus aujourd'hui, je crois que ce sont des débats qui étaient plutôt crispants sur des positions. Mais par moments, j'avais l'impression que la personne humaine elle-même était absente. Et je voudrais dire que dans les familles qui ont fait cette expérience, d'un enfant homosexuel, je crois qu'il faut bien comprendre que c'est à travers une histoire familiale, une histoire d'amour, une histoire d'affection, que cette révélation se passe à peu près dans cet âge de 17 ans, 20 ans, et qu'il y a tout ce passé de vie commune, toutes les joies vécues ensemble, toutes les épreuves, toutes les complicités d'enfants, toutes les expressions aussi de la foi, le baptême. Bien souvent dans la famille réunionnaise, il y a eu aussi la prière en commun au pied du lit des parents tous les soirs, le sacrement de l'Eucharistie, la confirmation, l'aumônerie. Et un jour, voilà, qu'on se trouve confronté à cette révélation-là. Bon, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez parlé de jeunes qui avaient beaucoup de problèmes, mais je crois que dans les familles avec plusieurs enfants, se poser, c'est vrai que c'était très difficile à comprendre, mais en même temps, il y a un problème existentiel. La fraternité reste la fraternité. L'amour des parents reste l'amour des parents. On ne peut pas supprimer d'un jour ou l'autre tout ce qui a existé. Bien sûr que ça demande un long travail, une écoute. Bien souvent, on a le sentiment de faire un progrès immense pour comprendre l'autre. On se dit, oui, voilà, on est très généreux. Et puis après, on se rend compte que quand ce frère ou cette sœur se retrouve dans leur communauté et qu'on est présent et qu'il s'exprime peut-être différemment, tel qu'il se sent, tel qu'il vit sa vie, alors on se rend compte aussi de la distance qui sépare. Il y a l'affection, il y a la fraternité, mais on sent qu'il y a bien une distance. Et parfois on se dit que peut-être que celui qui a fait le grand pas vers l'autre, c'est peut-être pas la famille, peut-être que c'est celui justement qui est différent, qui a fait ce pas-là. Donc au fond, je crois que c'est un problème qui n'est pas forcément, j'allais dire, qui est pourtant résolu. Mais je crois que il y a une force aussi existentielle, je vais m'exprimer comme ça, qui fait que voilà, c'est l'amour des parents reste l'amour des parents, l'amour des frères, les complicités de la vie, les échanges en profondeur sur toutes sortes de questions sont toujours aussi vraies. Les questions de spiritualité aussi sont aussi toujours aussi profondes. Bien sûr qu'on ne peut pas tout comprendre dans cette spiritualité, on ne peut pas comprendre l'autre, mais je crois qu'on ne met pas en toute la sincérité de l'autre. Voilà, je crois que... Et pour autant, est-ce que faut-il aussi, là, je dis, admettre que tout est possible? Voilà. Alors, moi-même qui suis aussi père, avec mon épouse mère, est-ce que c'est facile de dire que on accepterait un jour de ne plus... Alors, puisque le code de change, de ne plus se dire père, se dire mère, ce terme de parent, bon. Personnellement, je pense que oui, pour avoir un enfant, il faut être un homme, une femme, on ne peut pas. Mais est-ce que ça voudrait dire pour autant qu'il y a un rejet de l'autre? Je ne pense pas, mais en tous les cas, c'est vrai que ça reste quand même une souffrance, parce que la vie se vit beaucoup, et puis en même temps, des choses seront... Il y aura des positions qui seront difficiles. des choses qui seront incomprises. Voilà un peu ce que je voudrais dire.
Oui, bon, alors déjà, désolée, je suis arrivée en retard. Donc je voulais attendre un petit peu donc, avant d'intervenir. Et donc j'ai pris le micro très rapidement, mais j'ai vu que je vais rebondir finalement sur ce que tu viens de dire. Parce que c'est vrai, il y a plusieurs choses. C'est que souvent, on fait un glissement un peu trop rapide entre le non, on est contre le mariage des personnes du même sexe et homophobie. En effet, c'est pas parce qu'on va dire non qu'automatiquement on ne va pas les aimer. Et en fait, finalement, le problème du regard de l'autre, ça se passe des deux côtés. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que c'est aussi le fruit d'expérience personnelle de m'être déjà fait attaquer avant même que j'ai eu à dire quoi que ce soit. Parce que voilà, les personnes savent, parce que justement, étant personne entre guillemets publique, dire bah, oui, moi je sais, toi, vous les catholiques, vous êtes comme ça. Et ma parole à moi et ma personne. Quand j'arrive en face d'une personne, je ne suis pas là en train de lui demander si elle est homosexuelle. Et je sais, ben, je dis ça parce que justement, je travaille avec des jeunes. J'ai travaillé avec des jeunes au sein d'une aumônerie. Et ce n'est pas la première question qu'on pose à la personne quand elle entre. Et c'est surtout aussi, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir à ces personnes lorsqu'ils arrivent. Et c'est vrai que quelquefois, ils arrivent avec donc, non seulement le regard de l'autre, et en effet, il y a aussi des personnes qui vont accuser. Mais il y a aussi le regard que ces personnes vont poser sur eux-mêmes en disant « Vous, les catholiques, vous êtes comme ça par rapport à nous », alors qu'en fait, ils n'en ont pas encore posé la question. Et là, depuis tout à l'heure, j'entends « Oui, il faut poser un regard d'amour. Oui, ce sont des personnes. » Et avant même, c'est une composante de leur personnalité. La personne, elle ne s'est pas affichée homosexuelle. C'est une personne avant tout. Et voilà, avec ses spécificités, avec des traits de personnalité qui seront uniques à chacun. Et je suis sûre que quand on arrive comme ça, on va dire, ben, chacun là ici, est-ce qu'on est normal ? Ben non, parce que ben, moi je fais de la musique, l'autre là-bas, ben oui, mais ben, moi je fais ça, moi je fais ceci. Et finalement, on est tous uniques. Donc le terme de ce, oui, moi je suis normal, toi t'es pas normal, voilà. Donc quand on arrive surtout dans les milieux jeunes, c'est pas forcément la première question qui vient, mais c'est aussi cette question de savoir accueillir l'autre avec sa spécificité, mais aussi sa blessure, parce que quand elle arrive quelquefois à l'aumônerie, elle arrive déjà les poils comme ça, bien remontés, bien blessée, finalement prêt à mordre l'autre avant même d'attendre. Dis, ben non, ben viens, je t'accueille, je t'offre un café avant tout, voilà. Et donc vraiment de ne pas forcément faire un glissement entre une opinion qu'on pourrait avoir, certes, mais ensuite aussi on vit du premier commandement, et le premier commandement c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Comme toi-même.
Comme toi-même. Et très difficile à vivre, en effet, c'est oulala, un vaste programme. Et souvent, cette question d'homosexualité devient même une question d'examen. Parce que j'ai passé en fait le concours d'entrée pour l'IRTS. Première question qui arrive, c'est que pensez-vous de l'homosexualité et que faites-vous si un homosexuel arrive là et vous demande quelque chose. Donc, sur le coup, moi ce que j'ai dit, j'ai dit oui, d'accord, c'est vrai, la Bible dit un homme, une femme, mais la Bible dit aussi si quelqu'un arrive et a une demande. Si quelqu'un te demande de faire 1000 pas avec lui, fais-en 2000 avec lui. Donc quand la personne arrive, c'est pas de savoir si elle est homosexuelle ou pas, c'est une personne, si elle a besoin d'aide, on va l'aider. Et à la limite, qu'on sache ou pas si elle est homosexuelle, ça c'est de l'ordre vraiment du secondaire, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir aimer cette personne comme soi-même. Et c'est finalement ça, la vision du catholique. Donc quelquefois c'est un peu blessant de voir des débats qui sont déjà fermés, parce que dès qu'on va dire non, ah tu n'aimes pas les homosexuels. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Je dis aussi, voilà, de ne pas faire cet amalgame-là. Voilà.
Ton voisin.
Bonsoir, c'est Patrick. J'ai entendu ce soir beaucoup de choses et ça m'interpelle. Je ne vais pas vous faire un coup magistral, je ne sais pas le faire. Je vais dire avec mon cœur ce que je ressens. On va changer le code civil, on va changer les mots, on ne changera pas la Bible. Hein. La création... Ça commence par Dieu créa l'homme. Et à partir de l'homme, il fait la femme. on saura que l'homme va quitter ses parents pour n'en faire qu'un avec sa femme et continuer à procréer. On écrira tout ce qu'on voudra, mais on ne changera pas, je dirais, notre foi, notre vision des choses, et puis la vie continuera.
Merci de ce débat. Et dans l'actualité, il ne faut pas oublier qu'il y a une décision politique à prendre. C'est ça le... Et une décision politique posée par une demande de la société civile, telle qu'elle est. Il est dommage que nous n'ayons pas plus d'hommes politiques pour assister à ce débat avant qu'ils prennent leur décision. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est de dire que le couple hétérosexuel réussit, le couple homosexuel échoue, etc. À l'observation, on a des enfants de couples homosexuels qui sont épanouis et des enfants de couples hétérosexuels qui ont des problèmes. Et parfois, c'est des échecs. C'est une observation qu'on ne peut pas contester. Le débat se trouve donc à quel endroit ? Le débat se trouve entre ce qui est le mariage et ce qui n'est pas le mariage. Et on a dit ici ou là toutes les difficultés que posera le problème d'un mariage homosexuel, tant sur le plan du code civil, sur le plan des habitudes, sur le plan père-mère, etc. Et l'on ne peut pas quand même oublier qu'il y a dans les couples homosexuels un amour vrai et que ces couples homosexuels ont envie d'éduquer des enfants. Et une observation tout à l'heure, on a évoqué l'Allemagne, on a évoqué le pacte, et on a dit que le pacte est insuffisant en raison du fait que les époux, les contractuels n'ont pas les mêmes droits que dans un couple marié. Alors, ne pourrait-on pas étendre les droits du pacte? Et comme on disait tout à l'heure, que les paxés, c'est l'expression qu'on emploie, et au point de vue de la reversion de la pension de retraite, au point de vue des héritages, au point de vue les mêmes droits que les mariés, les couples mariés. Je me suis posé aussi la question dans les unions civiles, je crois que c'est l'expression qui a été employée pour ce qui se passe en Allemagne, il y a l'adoption. Jusqu'à ce soir, je me suis beaucoup interrogé sur l'adoption et les difficultés que l'on a trouvées pour que les couples homosexuels adoptent. À mon avis, ils pourraient adopter et les enfants adoptés auraient, au point de vue héritage, les mêmes droits que les enfants procréés ou les enfants adoptés d'un mariage hétérosexuel. Alors, je suis peut-être simpliste, mais je crois qu'il y a une solution politique qui est simple. Comme disait De Gaulle, pourquoi compliquer les problèmes compliqués et pourquoi ne pas simplifier les problèmes complexes? Voilà ce qui ressort, et je vous remercie de ce débat, de ce que j'ai entendu ce soir. Cela dit, il reste pour le chrétien, et comme on a dit quelqu'un tout à l'heure, qui n'est pas contre que le mariage religieux ne soit pas un mariage homosexuel. Je crois que c'est vous qui avez dit ça tout à l'heure. Eh bien, absolument. Pour le chrétien, il y a cette dimension du mariage, mais encore une fois, il y a une décision à prendre du point de vue de la société civile, d'une décision politique à prendre du point de vue de la société civile. Merci de m'avoir permis.
Non, c'est bien parce que ça remet bien les choses. Je crois que ça aurait été un des intérêts de ce soir, de bien se refixer dans la tête, hein, qu'on ne reste pas dans une confusion des différents domaines. L'heure a tourné, mesdames et messieurs. Vous aviez demandé à reprendre encore la parole ? rapidement, Stéphane, si tu veux, et après je conclue.
Je crois que dans le combat des personnes en souffrance, et effectivement les personnes qui ont fait ce choix de vie, j'entends bien qu'ils sont en souffrance. J'entends aussi pour beaucoup réfléchir avec eux en profondeur que cette souffrance n'est pas du co-rejet. C'est aussi le choix de vie en soi qui n'est pas simple. Mais bon, ce serait trop long d'entrer là-dedans. Mais ce qui m'apparaît, c'est que quand on est dans un combat, quand on est en souffrance et qu'on est dans un combat, on a tendance à vouloir... enfin, à se tromper de combat et à vouloir s'identifier avec ceux qui ne sont pas dans cette souffrance. Je pense aussi au combat des femmes, le MLF qui s'est trompé de combat. On a revendiqué à avoir tous les droits des hommes, ça c'est normal. Mais on revendique un peu d'être comme des hommes, de faire tout leur métier. Et actuellement, c'est un peu ce qui se passe. Les jeunes filles croient bien faire en voulant fonctionner comme des hommes. C'est pas le bon combat. Le combat, c'est revendiquer notre identité de femme, revendiquer la richesse que c'est d'être une femme, notre féminité, notre maternité, au lieu de vouloir avoir l'air de. Et je pense que y a un peu quelque chose du même ordre dans ce combat-là. Revendiquer d'être reconnue, revendiquer d'avoir les mêmes droits, revendiquer effectivement des choses justes, mais vouloir pouvoir créer cette micro-société qu'est le couple, qu'est la famille, qui représente la société. La société, elle fonctionne en poupée gigogne, et la micro-société, c'est le couple, le père, la mère, les enfants. Il y a eu une série de livres, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. On a bien vu qu'elles n'ont pas le même fonctionnement, les femmes que les hommes, qui sont différents. Donc, c'est pourquoi avoir cette micro-société-là où il n'y aura pas tous les représentants de la société, hommes et femmes. À ce moment-là, effectivement, que si ça se fait, s'il y a des couples homosexuels, qu'ils aient effectivement la générosité d'être proches de couples homosexuels de l'autre sexe pour que les enfants aient des repères de l'autre sexe. Ça me paraît important.
Déjà, je voulais juste dire une chose qui m'importe. Il y a une association qui s'appelle la PGL, qui est l'association des parents gays et lesbiens, qui recense en France 300 000 enfants qui vivent dans des familles homoparentales. Alors, moi, je fais la même chose qu'avec les manifestations, hein, les CRS d'un côté et les manifestants de l'autre. Généralement, l'État reconnaît 40 000 enfants vivant dans des familles homoparentales. Je vous invite à faire 300 000 plus 40 000 égale 340 000, vous divisez par deux, et je pense qu'il y a le bon chiffre. Moi, c'est une logique comme une autre. Je dis juste ça, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a donc des enfants qui vivent dans des couples, avec des couples qui sont deux hommes, deux femmes. Ça se passe bien, ça se passe pas bien, on sera pas plus... Je pense que les couples homosexuels ne seront pas plus exemplaires que les couples hétérosexuels, je vous rassure. Ça, j'en suis convaincu. À l'heure actuelle, on est exactement comme les femmes en politique, on est obligé de faire des efforts. Donc c'est tout. Et que pendant les premières générations, si la loi passe, je pense qu'ils vont faire des efforts justement pour être irréprochables. Et de toute façon, les gens nous attendent sur le sujet. Et qu'on sera vraiment les premiers à être les victimes des médias. Ça, je vous rassure. Si un jour, il y a quoi que ce soit, on dira et on sera désigné du doigt. Ça, c'est un des aspects. Je fais une petite remarque. J'étais venu avec une foultitude d'arguments anticléricaux. J'en ai pas eu besoin parce que c'était pas le but. Je remercie Stéphane aussi pour cette invitation parce que je l'ai fait dans le sens dans lequel lui m'a invité. Je considère qu'on est quand même au 21e siècle, que j'allais pas dire vous êtes des gens intelligents, je vais juste dire nous sommes des gens intelligents. C'est-à-dire que moi, hélas, ayant grandi dans la même société que vous, même si j'ai des nuances, ces nuances, que ce soit sur ma foi personnelle, que ce soit sur mon orientation sexuelle, je peux vous assurer que les valeurs que nous partageons sont les mêmes que les vôtres, et je peux dire nous quand je dis ça. Et c'est tout aussi important. Donc demain, c'est aussi à nous de voir ensemble le mariage, les couples existent, les enfants existent, le tout c'est de faire des lois. Pourquoi ? Je vais vous dire une chose, pour protéger les enfants, comme le disent les hommes politiques sur le sujet. Parce qu'à l'heure actuelle, dans un couple homosexuel, soit dit entre nous, si l'un des parents décède,
L'enfant, s'il n'y a pas de grands-parents, il ira à la DAS. C'est tout. Alors qu'il y a un parent existant. Donc, pour dépasser les phénomènes d'héritage, les phénomènes de pension, il y a un aspect absolument humain. En bon ex-catholique, je vais le dire, très gentiment, tant qu'on peut n'en sauver qu'un seul, l'essentiel, c'est de le sauver. Voilà, c'est comme ça que je voulais conclure, je trouvais ça très bien.
Merci. Et pour reprendre juste une chose que tu as évoquée, Paul, oui, les politiques sont absents. Je me permets de réinsister en finale sur ce que nous a dit Stéphane sur les jeunes en souffrance. Et pourquoi pas, moi je lui avais dit ça l'autre jour, hein, c'était pas du bosh, mais je lui ai dit, mais une soirée comme ça, ça peut peut-être aussi être l'occasion de se dire, c'est peut-être pas si compliqué de ça, de l'aider à trouver un local. Pour le refuge.
Je vais juste interrompre parce que je cherche pas qu'un local. Si demain il y a des familles qui sont absolument avec une chambre de libre et qui ont la capacité d'accueillir un gamin en difficulté qui est un majeur, ils seront les bienvenus dans le sens où je crois que c'est très catholique ça.
Non, je crois que c'est surtout très anthropologique, c'est ce que disait Bastide. C'est-à-dire, comment dire ça? Dans bien des situations historiques, les gens ne se sont pas entendus parce qu'ils se sont déclarés qu'il fallait s'aimer. Hein? Même si nous, on a notre commandement de l'amour. Mais c'est parce que il y a des combats à mener. Il y a des combats d'abord de survie, hein, qui ont dans bien des cas amené des gens différents à agir de concert. Ben, je me dis, dans une affaire comme ça, on ira bien plus vite et bien plus loin que tous les discours et que tous les débats si on agit ensemble face à des souffrances qui méritent l'attention de tous, tout simplement. Hein. En tout cas, un grand merci. Et je crois que c'était très important de faire ce type de soirée. Mais mon souhait, c'est que ça se fasse ailleurs aussi. Hein, et que peut-être à travers nos différentes paroisses, mouvements ou je sais pas quoi, hein, qu'on ose ça. Puis qu'on ose la rencontre.